Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ? C'est le titre d'un ouvrage paru en mars 2004 aux éditions Odile Jacob et qui a pour auteur le professeur Raymond Boudon, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste notamment de la sociologie des idées. Alors pourquoi tant de malentendus autour du libéralisme ? Pourquoi tant d'intellectuels le rejettent-ils par principe ? Seulement parce qu'ils entendent exercer une fonction critique dans une société où triomphe le capitalisme, ou est-ce, je dirais, simplement par ressentiment ? Autant de questions que Raymond Boudon soulève dans cet ouvrage, qui est en fait la version développée d'une conférence donnée en 2003 à Morges, en Suisse, à l'invitation du Parti libéral suisse. Professeur Boudon, bonjour.
Bonjour.
Alors pour débattre, éclairer ce thème, j'ai invité à nous rejoindre aujourd'hui Marc Guillaume, professeur à l'Université Paris-Neuf-Dauphine, éditeur, auteur de nombreux ouvrages, dont Figure de l'altérité avec Jacques Baudrillard aux éditions Descartes et compagnie. Bonjour Marc Guillaume.
Bonjour Emmanuel.
Alors Raymond Boudon, je le disais, cet ouvrage que vous publiez chez Odile Jacob est le résultat d'une conférence donnée en Suisse. Nos amis helvètes s'intéressent particulièrement à cette question du libéralisme.
Oui, bah, il s'y intéresse bien entendu. La Suisse est considérée comme un des lieux d'implantation du libéralisme en Europe. Et en fait, j'ai accepté cette conférence parce que la question m'a semblé, je suis sociologue de métier, et la question m'a semblé sociologiquement tout à fait intéressante et difficile. Il y a d'ailleurs toute une littérature sur la question. Pourquoi est-ce qu'il y a, très généralement, pas toujours, pas dans tous les cas bien entendu, mais une très générale attitude de rejet du libéralisme de la part des intellectuels. Si j'ai accepté, c'est aussi non seulement parce que la question est intéressante en elle-même et difficile, mais aussi parce que le mot libéralisme est devenu aujourd'hui presque une sorte d'insulte dans beaucoup de bouches, alors qu'il s'agit en réalité au fond d'un élément important du patrimoine de l'humanité, si l'on peut dire. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'idées qui remonte à très loin, qui est représenté par toutes sortes de grands noms, enfin, qu'il s'agisse d'Adam Smith, qu'il s'agisse de Tocqueville, etc. Donc c'est un mouvement d'idées extrêmement puissant, extrêmement important. Par conséquent, ce qui m'a intéressé aussi, c'est de comprendre pourquoi ce mouvement d'idées très positif, très important, etc., provoque non pas seulement des critiques, mais un rejet, enfin rejeté du côté du mal.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être quelques définitions. Qu'est-ce qu'un libéral ? À quand remonte cette notion ? On voit peut-être poindre les lumières derrière. Et puis qu'est-ce que le libéralisme ? Il y a plusieurs types de libéralisme en fait. Hein. Il y a économique, philosophique, etc.
L'origine du mot, c'est une insulte, comme le mot protestant, qui est une insulte, qui est utilisée par les conservateurs anglais au XVIIIe siècle, pour désigner les gens de gauche de l'époque, les Whigs. Ils vont chercher un mot du vocabulaire politique espagnol, en réalité, los liberales, et ils traitent les Whigs, les gens de gauche d'Angleterre du XVIIIe siècle, de liberales. Et c'est pourquoi, dans le vocabulaire anglo-saxon, aussi bien en Angleterre qu'aux États-Unis, le mot libéral est pratiquement synonyme de homme de progrès ou de homme de gauche. Alors voilà pour l'origine. Ceci dit, il est très vrai que le libéralisme, c'est un mouvement d'idées, comme le marxisme d'ailleurs, qui est représenté par toutes sortes de penseurs. Par conséquent, il y a beaucoup de variantes du libéralisme.
Économique, politique, philosophique, religieuse aussi.
Économique, politique, religieuse, épistémologique, je dirais, parce que le libéralisme propose un mode de pensée de l'homme.
Et votre définition, Raymond Boudon, de l'intellectuel, c'est quoi ? Un producteur d'idées, un consommateur d'idées ?
Oui, j'ai pris une définition aussi large que possible, c'est-à-dire un producteur d'idées dans le domaine surtout des sciences humaines.
Alors aujourd'hui, les idées libérales sont plutôt considérées comme étant de droite, alors qu'au XIXe siècle, on les percevait, on les plaçait plutôt à gauche.
Oui. Tout à fait. Les libéraux anglais, les libéraux le libéralisme de Manchester, par exemple, C'était un mouvement politique de gauche. Enfin, quelqu'un comme Cobden, une grande figure du libéralisme anglais, est un homme de gauche aux communes. Et tout son combat politique a été, une grande partie de son combat politique a consisté à lutter contre ce qu'on appelait à l'époque les corn laws, c'est-à-dire des tarifs protectionnistes qui faisaient que le prix des grains était plus élevé qu'il n'aurait dû l'être. Et l'idée de Cobden, c'était d'approfondir la démocratie. Son idée, c'était que ces corn laws, qui en fait étaient une conséquence très lointaine du blocus continental, ce protectionnisme des conservateurs anglais, son idée, c'était que ça contribuait involontairement à renforcer la structure aristocratique de la société anglaise, dans la mesure où le prix du pain était trop élevé. Donc c'était un combat, en fait, c'était un combat d'approfondissement de la démocratie.
Marc-Guillaume, vous partagez cette définition, je dirais, à la fois du libéral, du libéralisme, de l'intellectuel?
Ah oui, non, je suis complètement d'accord. L'origine de la notion, c'est bien ce que vous venez de décrire, avec les ambiguïtés qui d'ailleurs perdurent encore aujourd'hui, quand on dit aux États-Unis un libéral, c'est plutôt pour désigner les démocrates. Sur les niveaux philosophiques, épistémologiques et religieux, je n'ai pas d'observation à faire. Je crois quand même que votre question, pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, vise le libéralisme dans son acception dominante, c'est-à-dire son acception économique. Il me semble que, bon, il y a un amalgame qui n'est d'ailleurs pas sans inconvénient entre libéralisme, capitalisme, individualisme. C'est un peu cet agrégat que le libéralisme désigne, et c'est pour ça sans doute que très souvent on s'en sert, alors cette fois-ci comme une injure, mais dans un autre contexte. Moi, il me semble que les choses changent à partir du XXe siècle. Le libéralisme en effet fait un couple, à mon avis un couple mal assorti, même une sorte de porte gauchie avec le marxisme, du moins en Europe, dans d'autres pays aussi, aux États-Unis et au Japon aussi, mais de façon très minoritaire. En Europe et particulièrement en France, on a un couple marxisme-libéralisme. Or, comme vous le savez, la partie marxiste s'est un peu effondrée et l'approche libérale est à la fois devenue dominante et fragile parce qu'elle était justement dominante. Elle n'avait plus rien sur quoi s'arc-bouter.
Alors nous allons détailler tout cela au fil de notre conversation, au fil de l'émission Éclairage. Raymond Boudon, votre propos débute ainsi, je vous cite, « Étant donné la puissance intellectuelle du libéralisme, son intérêt politique, son efficacité économique et son importance historique, on est un peu déconcerté qu'il soit si peu populaire auprès de beaucoup d'intellectuels. Bien des auteurs ont réfléchi sur cette question et ont apporté diverses réponses. Et certaines sont de caractère psychologique. Le philosophe libéral américain, Nozick, en 1997, a par exemple soutenu que l'hostilité des intellectuels à l'endroit du libéralisme s'expliquerait par le ressentiment. Ils refuseraient le libéralisme parce que les lois du marché ne leur accorderaient pas les rémunérations matérielles et symboliques que dans leur esprit, leur succès scolaire les autoriserait à attendre. L'explication paraît quand même un peu futile, non?
En tout cas, elle est d'actualité, on pourrait presque dire.
Il y a eu des travaux savants, entre guillemets, c'est-à-dire des travaux faits à partir d'enquêtes sociologiques relativement bien faites, qui ont essayé de tester l'hypothèse. Et il y a probablement une part de vérité là-dedans. Oui. C'est certainement pas l'explication universelle, l'ouvre-boîte universelle, ça certainement pas. Mais il est vrai qu'il y a probablement chez un certain nombre de personnes ce mécanisme psychologique extrêmement élémentaire. Comment ? J'ai fait 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans d'études, et me voilà avec un statut social, des revenus, etc., qui sont très inférieurs à ce qu'on peut obtenir en ayant beaucoup moins. Bon, ce mécanisme psychologique est précis, il est probablement... Un certain nombre d'individus en sont probablement porteurs, mais de là à dire que ça constitue l'essentiel de l'explication,
oui,
sûrement pas.
Il n'y a pas que ça.
Il faut dire que Nozick est un libéral d'un type très particulier. C'est un libéral libertaire. C'est un théoricien de l'état minimum. Enfin, donc.
En plus, elle est amusante cette explication. Je ne la connaissais pas, je la découvre en temps réel. Mais je la trouve amusante parce qu'au fond, c'est vrai que l'intellectuel est peu rémunéré par les forces de marché. Et c'est précisément pour les intellectuels, même si ça les touche justement au porte-monnaie, l'occasion de se dire, mais pourquoi les travaux qui vont changer les représentations, qui vont finalement faire notre avenir, ne sont pas rémunérés. Pour le dire en termes concrets, je me souviens, enfin tout le monde se souvient, de la bataille que Jérôme Lindon avait engagée pour soutenir la loi Lang, la loi dite Lang, pour le prix unique du livre, dans lequel on voit bien que les forces du marché vont privilégier les best-sellers et pas forcément les ouvrages de fond, les ouvrages novateurs, les ouvrages savants.
C'est l'éditeur
savants.
Qui parle. Là.
C'est l'éditeur, mais c'est aussi à Raymond Boudon que je m'adresse. Bon, je sais bien que son éditeur est un grand éditeur qui connaît bien les forces du marché, mais bon, peut-être qu'il va vendre moins que le prochain livre d'Isabelle Adjani, que par ailleurs j'aime beaucoup et j'admire beaucoup. Donc, si vous voulez, l'intellectuel se dit peut-être que les forces du marché, les forces libérales, les fameux optimums de Pareto et toute la mécanique qui est derrière, ne sont pas si optimales que cela. Et ça, si vous m'en laissez le temps dans un moment, j'y reviendrai.
Nous y reviendrons, effectivement. Alors, qui dit libéralisme dit généralement, bon, quand même, liberté. N'est-il pas paradoxal que les intellectuels ne soient pas davantage séduits par une vision du monde qui traite justement l'autonomie de l'individu comme une valeur centrale? Raymond Boudon.
Alors ça, c'est une des thèses à laquelle je tiens dans ce livre, une des thèses sérieuses, c'est que le libéralisme se greffe sur une image de l'homme qui tourne autour de la notion d'autonomie. Et c'est d'ailleurs en ce sens que la dimension philosophique du libéralisme est essentielle. Sans cette dimension, on ne comprend pas, je crois. Au niveau philosophique, Kant est un inspirateur d'énormément de libéraux, y compris de gens comme Max Weber, par exemple. Enfin, et alors, là, le point central, c'est que l'homme est considéré fondamentalement comme un être autonome et raisonnable, disons. Alors, une des thèses que j'ai essayé de soutenir dans ce livre, c'est que volens nolens, sans le vouloir, toutes sortes de mouvements très influents se sont développés, qui tournaient complètement le dos à cette vision de l'homme autonome, et qui, au contraire, ont essayé de construire, sur une vision hétéronome de l'homme. Et là, il y a une convergence assez extraordinaire de mouvements qui n'ont pas grand rapport les uns avec les autres. Enfin, c'est le positivisme, par exemple, si je peux développer cette idée une seconde. Le positivisme, par exemple, c'est un mouvement d'idées qui considère tout ce qui est subjectif comme non scientifique, comme douteux. Et par conséquent, l'idée de la conscience, du subjectif, etc., paraît peu compatible avec l'idée de science humaine. Le structuralisme, c'est quelque chose de tout à fait différent. Enfin, bien. Mais le structuralisme présente l'individu comme mu par des structures qui... Le marxisme, une notion centrale, c'est la notion de fausse conscience, c'est-à-dire cette idée selon laquelle l'individu ne comprend pas ce qu'il fait, ce sont des forces. Autrement dit, vous avez, de façon non voulue, la cristallisation de deux grandes manières de penser l'homme, la manière kantienne, disons, qui insiste sur l'autonomie du sujet et sur laquelle se greffe toute la tradition libérale, et puis la manière qui voit au contraire l'individu humain comme essentiellement le point d'application de forces sociales, de forces culturelles, de forces biologiques, de forces psychologiques. Alors j'ai cité le structuralisme et le freudisme, c'est la même chose. Le freudisme représente l'individu comme mu par des forces qui l'habitent et dont il n'a pas le contrôle ni la conscience. Bon, je crois que du point de vue de l'histoire des idées, il y a quelque chose d'assez fondamental sur lequel on n'insiste pas suffisamment, me semble-t-il, c'est qu'on voit à un certain moment la cristallisation de deux manières un peu polaires et antithétiques de voir l'homme. Et je crois qu'il y a derrière cette antithèse et derrière beaucoup de difficultés d'interprétation du libéralisme.
Cette dualité, vous la voyez aussi, Marc Guillaume ?
Non. Non, je ne la vois pas. Je crois que la pensée par dualité est souvent justement trop simplificatrice. Et c'est peut-être un jeu dans l'idéologie du libéralisme, dans un sens très large cette fois-ci, de vouloir s'opposer au reste du monde. Mais le reste du monde, en effet, est complexe. Et donc, il n'y a pas opposition. Il y a, je le répète, c'est un peu comme cette fausse opposition qui, pendant un demi-siècle, même plus, a brouillé nos idées, l'opposition entre le libéralisme et le marxisme, surtout sur le plan économique. Et d'autre part, après tout... Si on remet les choses un peu dans une approche géologique, elles peuvent être compatibles. Il ne faut pas trop opposer. Alors, je voudrais, pour m'expliquer plus clairement, rappeler que si les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, il y en a quand même qui y ont réfléchi, et des des grands. Je pense par exemple à Louis Dumont, un grand anthropologue, qui montre bien que la naissance de l'individualisme, le fait que l'on mesure tout à partir de l'individu, c'est quelque chose de récent et de limité dans l'espace et dans le temps. C'est un indianiste et il montre que les sociétés holistes, ce qu'il appelle les sociétés holistes, ont dominé l'histoire. Et à partir de là, un autre économiste un peu hétérodoxe, mais fondamental, Polanyi, montre comment le monde subit une grande transformation avec un encastrement finalement, non pas que les valeurs libérales et économiques soient les seules, mais qu'elles s'encastrent et elles deviennent, que tout le reste s'encastre en elles. Et c'est cela qui va faire la cible, si je puis dire, de toutes les autres critiques. Et puis il y a un auteur, un grand intellectuel qui s'est intéressé au libéralisme de manière à la fois très pertinente, très profonde et malheureusement peu connue, c'est Michel Foucault. Là, je vais le résumer en trois phrases qui vont sans doute un peu être énigmatiques. Foucault dit, mais l'invention du libéralisme, c'est tout simplement une invention de l'État. C'est l'État anglais qui est obligé, parce qu'il ne peut pas tout faire, et parce qu'il faut pourtant organiser la compétition, et notamment la compétition entre les nations, par l'économie, il faut se résigner à déléguer. Et il invente cette main invisible. C'est pas Adam Smith. Adam Smith, c'est ce que les intellectuels se racontent. On trouve toujours celui qui, le premier, fait le livre fondateur. D'ailleurs, le livre fondateur, ce serait plutôt Mandeville, en fait. C'est Mandeville qui a la grande intuition, hein, les vices privés, les vertus publiques. Et puis Adam Smith va reprendre, en effet, au fond, cette nécessité de l'État d'organiser les choses d'une façon libérale. Donc, quand on lit Foucault, on est très calme, on dit... En effet, ruse de l'État, ruse des organisations. Et encore, on le voit aujourd'hui. Je vais le dire en termes économiques et techniques. Quand il faut organiser la compétition des télécoms ou de l'énergie, demain du transport, peut-être après-demain de l'université, de la santé, on met quoi ? On met des agences de régulation. C'est-à-dire qu'on crée, en effet, de nouvelles formes étatiques pour organiser le libéralisme. Donc, effectivement, le libéralisme est une structure, une vision des choses qui peut s'articuler avec d'autres. Mais je dirais, c'est un peu en fonction du moment, en fonction de du domaine dans lequel on se place. Et c'est aussi en fonction de sa position presque religieuse, sa vision du monde, qu'on peut voir le monde à partir de l'individu ou au contraire à partir d'une structure. Je vais prendre encore un dernier exemple, cette fois-ci pas économique, que j'aime beaucoup, c'est Henri Michaud qui dit, vous savez, c'est pas deux personnes qui font une relation, c'est la relation qui fait les personnes, qui fait la valeur des personnes. Bon, moi j'aime mieux cette vision de l'amour, hein. Je trouve que les individus, bon, au centre du monde, c'est une pensée moderne et consolante. J'avoue qu'une autre, d'autres pensées sont possibles.
Bien, je vous propose de marquer une première pause dans cette émission. Nous nous retrouvons dans un très très court instant. Je vous rappelle que Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui traite de cette question. Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ? C'est en fait le titre de l'ouvrage que publie l'académicien Raymond Boudon aux éditions Odile Jacob. Et nous parlons également de ce sujet avec le professeur Marc Guillaume qui est avec nous. À tout de suite.
Canal Académie.
Éclairage reçoit donc aujourd'hui M. Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur du livre « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme » aux éditions Odile Jacob. Et puis face à Raymond Boudon pour retraiter donc de cette question des intellectuels et du libéralisme, le professeur Marc Guillaume, professeur à Paris Dauphine, éditeur, auteur de nombreux ouvrages à vocation économique notamment. Alors, professeur Boudon, vous souhaitiez répondre justement juste avant la pause. Oui. Marc Guillaume, détaillait un petit peu sa vision des choses. Vous souhaitiez y répondre.
Je souhaitais dire que je n'étais pas d'accord d'abord avec l'idée que l'individualisme... Si vous regardez la littérature, c'est amusant. On pourrait même faire un petit article sur la question. Il y a ceux qui font naître l'individualisme au XVIe siècle. Il y a ceux qui le font naître au XIVe. C'est le cas, par exemple, de Huntington. Aujourd'hui, c'est le XIVe. Burckhardt, c'était le XVIe. Je trouve que notre grand génie sociologique français a énoncé la vérité sur ce sujet. Il y a une phrase merveilleuse dans la Division du Travail où il dit « L'individualisme ne date ni de la réforme protestante, ni de l'antiquité grecque et romaine, ni de la chute des empires orientaux. L'individualisme est de tout temps. » Il s'approfondit au cours de l'histoire, mais il est tout temps. Il voulait dire, là c'est kantien, c'est très kantien, il voulait dire le souci qu'a l'individu de lui-même, de sa petite famille, de son environnement immédiat, c'est le critère, la catégorie fondamentale à partir de laquelle il juge les institutions, il juge des choses, si vous voulez. Alors, c'est une idée prodigieusement profonde de Durkheim, qu'on ne voit pas en général, et pourtant c'est une idée. Ah, je voulais dire ceci. D'autre part, la question n'est pas vraiment de savoir si on transforme le monde en monde binaire. Hein. Mais je voudrais simplement prendre un exemple pour montrer qu'il est très important de savoir si on analyse un phénomène social en se donnant un homme autonome ou un homme hétéronome agité par des forces sociales. Je lisais récemment dans la revue de l'Académie américaine des sciences un article d'un anthropologue tout à fait éminent qui étudiait le cas d'une Sierra Leonaise qui naît aux États-Unis, qui fait toutes ses études aux États-Unis et qui, peut-être, on ne sait pas pourquoi, éprouve le besoin de retourner chez elle et se fait exciser. Donc c'est quelqu'un qui a été élevé dans un monde américain et qui décide de se faire exciser. Interprétation de Schwiller, cet anthropologue, il y a des forces culturelles tellement importantes au Sierra Leone qu'à partir du moment où vous êtes transplanté au Sierra Leone, l'excision devient quelque chose de positif. Et il va même jusqu'à la faire venir à Harvard devant la Société américaine d'anthropologie. Et cette dame déclare qu'être excisé donne un sentiment positif de pouvoir. Voilà l'analyse qu'on a si on se donne quelqu'un d'hétéronome, si on se donne un être humain capable d'être affecté par des forces. L'interprétation raisonnable, c'est plutôt une interprétation de type rationnel. Elle va au Sierra Leone, bon, elle est américaine, elle sait beaucoup l'anthropologie, elle a du mal à se faire accepter localement. Et il y a des coutumes localement. Et pour se faire accepter, bon, elle décide de passer par les coutumes qui sont en vigueur là-bas. Et puis ensuite, elle rationalise tout ça. Voilà un exemple où il y a deux modes d'analyse complètement différents. L'un qui est très généralement utilisé aujourd'hui par la plupart des anthropologues, par Dumont notamment, pour qui l'individu est fondamentalement le siège de forces sociales, culturelles. Et puis il y a la tradition libérale. Alors ce que j'essayais de montrer dans le livre, c'est que les grands, les très grands, ceux qu'on ne conteste pas, c'est-à-dire Max Weber dans les sciences humaines, Max Weber, Durkheim. Max Weber avait une horreur absolue de la psychanalyse. Il a écrit des pages véhémentes sur la question. Il a dit si vous voulez tuer la sociologie, utilisez la psychanalyse. Ça voulait dire quoi ? Il partait de l'idée que le comportement humain est fondamentalement compréhensible, c'est-à-dire qu'il est fondé sur des raisons, des motivations qu'on peut comprendre, qu'il est donc rationnel en un sens très très large du terme. Donc vous voyez, c'est la tradition libérale, qui contraste très fortement avec Dumont, avec les structuralistes, etc. Donc le binaire, cher Marc Guillaume, le binaire, c'est pas moi qui le... Je plaide pas pour le binaire du tout. Je le constate et je le regrette. En ce sens, je suis absolument d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de gens un petit peu partout. J'ai cité des Américains, des Français, etc. Toutes sortes de gens qui sont absolument convaincus que faire des sciences de l'homme, c'est traiter l'homme comme une chose sur laquelle s'appliquent des forces culturelles. C'est le cas du monde, etc. Ça n'est pas du tout le cas de Tocqueville, ça n'est pas le cas de Weber, ça n'est pas le cas d'Evans Pritchard. Ça n'est... Donc le binaire existe, et je le regrette beaucoup. C'est en ce sens que je suis à la fois d'accord avec vous et en même temps profondément en désaccord.
Alors, si l'on parle un petit peu libéralisme économique, est-ce que ce libéralisme, en règle générale, ne souffre pas trop aujourd'hui d'un déficit d'explication, de communication? Je pense notamment à l'épisode du Larzac, hein, cet été, enfin l'été 2003, l'OMC a été dénoncé comme étant à la solde des multinationales. C'est quand même oublié que les pays du Sud sont représentés à l'OMC, non? Tout comme en son temps, je dirais, le GATT qui avait œuvré à la baisse des barrières douanières au profit des pays du Sud, non, Marc Guillaume?
Oui, tout à fait. La bataille contre l'OMC est très ambigu et vous avez mis l'accent, le projecteur, là où justement il y a deux interprétations. Interprétation positive, l'OMC, c'est une manière d'introduire un peu de pacification et si possible de solidarité par le commerce et en faveur, du moins en principe, et du moins quand la conjoncture ou du moins le moyen, ce qu'on pourrait appeler les évolutions à moyen terme sont favorables, ce qui n'est pas le cas en ce moment d'ailleurs, plus de soutien aux pays en voie de développement. Donc de ce point de vue-là, l'OMC, on peut dire, est une bonne chose et même une chose qui doit être renforcée. Mais mauvais côté de l'OMC, et c'est quand même étonnant que parmi l'ensemble des organisations internationales, et il y en a de plus anciennes que l'OMC, aucune n'ait une force, une capacité de contrainte. Seule l'OMC, via l'organisation des règlements et des différends, l'ORD, est capable de trancher et de s'imposer, comme on le voit en ce moment pour la sidérurgie américaine. Donc on peut se dire, mais pourquoi l'OIT, l'Organisation Internationale du Travail, pourquoi l'ONU, pourquoi un certain nombre d'organisations internationales qui touchent au social, à la santé en particulier, n'ont pas le pouvoir qu'a cette jeune organisation, relativement jeune, puisqu'elle remonte au GATT, donc après la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, pourquoi l'ordre mondial est prioritairement un ordre économique, imposant ses lois, ses hiérarchies, ses inégalités. Je crois que c'est cela, au fond, qui suscite la colère des altermondialistes, qui voudraient que...
finalement, un autre monde est possible.
Qu'un autre monde plus multidimensionnel soit possible. Et on retrouve la théorie de Polanyi de l'encastrement, c'est-à-dire de cette espèce de logique première de l'économique dans l'organisation du monde.
Raymond Boudon, un autre monde est possible ?
Je ne crois pas. Je crois qu'on peut améliorer beaucoup celui qui existe, mais je crois qu'on est vraiment sorti de la situation qu'on a connue pendant très longtemps, où on avait l'impression qu'il y avait un mode d'organisation sociale alternatif du mode d'organisation capitaliste libéral sous la forme des systèmes soviétiques communistes. Mais à ce moment-là, on croyait vraiment à une alternative possible. Mais ce qui me frappe quand on regarde le discours des altermondialistes d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait vraiment très peu de propositions. Ils font des choses très importantes, je le signale dans le livre. Vraiment, le fait d'avoir attiré l'attention sur le côté inacceptable du travail des enfants, c'est vraiment très très positif. Je ne dis pas du tout qu'ils ne jouent pas un rôle positif, au contraire. Mais le mot alter est un petit peu usurpé. Comme le dit Marc Guillaume, on voudrait que le GATT ait davantage de pouvoir. Bon, mais là, on se heurte à la question... quand même extrêmement difficile, la souveraineté nationale, et puis du fait qu'il existe des puissances. Alors très souvent, ce qu'on reproche au libéralisme, ce sont des effets qui sont dus à l'application des politiques qui tournent le dos au libéralisme. Je cite le cas Marc-Guillaume parlait du cas de l'acier, il y a aussi le cas du coton, qui est profondément scandaleux. Tout le monde sait bien qu'il y a un moyen très simple de modifier la situation et les inégalités entre des pays comme le Bénin ou le Burkina Faso, et puis les pays occidentaux, c'est de lever les barrières douanières qui empêchent ces gens de vendre leur coton. En plus, leur coton est meilleur, d'après ce qu'on dit, parce qu'il est récolté à la main. Et là, on a un cas où le mal ne vient pas de la main invisible du marché, mais ça vient de la main parfaitement visible du président des États-Unis, en l'occurrence, qui cherche à défendre ses 25 000 cotonculteurs américains.
Enfin. C'est-à-dire, le libéralisme économique est l'objet d'entorses permanentes de la part des États et des libéraux eux-mêmes.
Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est une affaire compliquée. C'est vrai que le libéralisme, c'est une fiction. Mon maître Edmond Malinvaux disait, on parle d'une économie qui est martienne, qui n'existe pas. Le libéralisme n'existe pas. Donc, les analystes économiques, ça, le reconnaissent volontiers. D'où d'ailleurs la nécessité d'avoir en permanence des bureaucraties pour essayer de se rapprocher de la concurrence. Mais je dirais, ça, c'est une critique, non pas du second ordre, elle est essentielle, mais elle est intellectuellement assez claire. Ce qui est plus compliqué, c'est de comprendre que même si vous laissez jouer les forces du marché, vous obtenez très probablement même, l'expérience l'a montré, des situations qui sont dites optimales au sens de Pareto, mais qui sont très inégalitaires. Parce que le monde est inégalitaire. Il y a des gens qui sont handicapés, qui sont malades, il y en a d'autres qui sont brillants, qui ont du talent, qui sont beaux, comme Isabelle Adjani que j'évoquais tout à l'heure. Le monde est injuste, le monde est cruel. Et donc si vous laissez fonctionner ces mécanismes, vous aurez sur la frontière de Pareto, comme on dit, des situations très inégalitaires. Et il est très difficile ensuite de rajouter à ces mécanismes de la redistribution. C'est pour ça qu'au fond, on dit le libéralisme, c'est la loi de la jungle, c'est-à-dire la loi des plus forts. Vous voyez, ça, c'est pas le problème des imperfections du marché, c'est le problème de la structure du libéralisme. J'ajoute une chose que je tiens à signaler, c'est que la plupart des, à peu près, je crois, 120 000 étudiants en économie en France, en ce moment, je vous fais le pari qu'il n'y en a pas un pour mille qui a compris ce que c'était qu'un optimum de Pareto, en profondeur. Un petit mob de Pareto, si, ils l'ont compris, ils savent le définir, mais ils ne le sentent pas.
Mais ils vous écoutent.
Espérons. un petit mob de Pareto, c'est quelque chose qui est une propriété très très faible, puisqu'il suffit qu'il y ait un seul individu dans la collectivité, et dans une collectivité de plusieurs millions d'individus, vous voyez, c'est des situations qui arrivent assez souvent, qui ne soient pas d'accord pour bloquer la situation. Ce qui faisait dire à Amartya Sen, qui depuis est devenu prix Nobel d'économie, que la situation de Rome, brûlé par l'empereur Néron, est une situation optimale. Parce que si vous enlevez une maison à Néron, il est moins content. Donc il faut voir que l'optimum de Pareto, c'est rien. C'est simplement une figure de rhétorique qui a fait beaucoup de ravages. Voilà ce que je voulais dire sur la critique. Donc revenons une seconde aux altermondialistes et redescendons sur Terre. Alors là, je rejoins tout à fait Raymond Oudon. Heureusement qu'ils sont là. Parce que, en effet, il y a les imperfections du libéralisme, il y a une réflexion critique sur le libéralisme à faire pour les raisons que je viens d'indiquer, un peu fondamentales, et il y a le fait que dans les prochaines décennies, il va falloir organiser la décroissance pour des raisons d'environnement. Et je ne vois pas comment les mécanismes de marché, laissés à leur tendance aux imperfections et à leurs injustices profondes, enfin incorporées dans le mécanisme, vont affronter ce virage historique. C'est pour ça que moi, ma principale critique à l'égard du libéralisme économique, c'est d'être trop simpliste, c'est d'être une vision simpliste du monde. Ça m'étonnerait que le monde, tout d'un coup, qui va plutôt vers plus de complexité, fasse rebrouche chemin. Et donc, il faut nuancer, compléter. Alors certains, d'ailleurs, le libéralisme social, le socialisme libéral, comme dit Madame Cantos-Sperber, est une voie, hein, c'est les rocardiens en France, mais il y en a beaucoup en Italie, en Europe du Nord, c'est une voie intéressante, je pense qu'une voie plus radicale, certains altermondialistes, et là je reconnais avec vous qu'il y a un amalgame effroyable dans ce qu'on appelle les altermondialistes, certains mouvements altermondialistes ont vraiment un apport essentiel pour faire preuve de créativité et trouver des régulations internationales nouvelles.
Alors on connaît la position du prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, qui met en avant notamment la lutte des classes au niveau planétaire. Vous dites, Raymond Boudon, sans détour d'ailleurs, que les théories simplistes se sont répandues dans les milieux intellectuels au cours des dernières décennies, y compris dans les milieux universitaires.
Oui, ça, je pense que c'est un problème très très grave pour la démocratie, ça. Mais c'est ce qui est une autre manière de dire que l'éducation est une dimension essentielle de la démocratie. Je suis effectivement frappé par le fait que se sont installés très souvent dans le milieu universitaire, partout, aussi bien en France qu'en Allemagne, aux États-Unis, etc., en conséquence probablement d'une mauvaise gestion de la croissance de l'université, du développement de l'université de masse. C'est développé. Il y a eu une déperdition des apprentissages, des modes de pensée, et par suite une espèce d'analphabétisme qui s'est répandu et qui, je crois, est vraiment tout à fait redoutable. La grande nouveauté, c'est qu'on voit, on a vu s'installer dans des universités, quelquefois dans des endroits prestigieux, des gens qui, du temps où on croyait au savoir, on croyait aux vertus de l'argumentation raisonnée, etc., n'auraient jamais été pris dans une université. Là, il y a vraiment un problème absolument fondamental. On le voit bien, il éclate en Allemagne, il explose en France. Aux États-Unis, il est moins grave parce que les États-Unis, les universités américaines sont tellement variées de par leur niveau, etc., que bon, il y a des poche de grande qualité qui reste tout de même, et que finalement c'est là qu'on va chercher les prix Nobel. Mais un petit peu partout ailleurs, dans les pays plus centralisés, la plupart des pays européens où l'éducation est plus centralisée, l'université de masse a été mal maîtrisée. Mon sentiment, c'est que surtout dans le domaine des sciences humaines, les sciences de la nature ont leur résistance propre. Hein. Les mathématiques, on ne peut pas dire n'importe quoi en mathématiques. Mais les sciences humaines sont moins codifiées, plus fragiles, ce qui fait d'ailleurs leur richesse. Mais il s'est implanté du côté des sciences humaines toutes sortes de théories simplistes et qui ont eu des effets absolument épouvantables.
La sociologie aussi touchée de la science politique, moins l'économie peut-être d'ailleurs, Marc.
Un peu moins, mais le diagnostic serait effectivement à spécifier, parce que comme l'économie a une fonction à la fois utilitaire, bon, ça la protège un peu comme les sciences exactes, comme elle a une fonction idéologique, elle est plus tordue, je veux dire plus distordue que les autres sciences sociales, mais d'une manière sérieuse, par des experts qui sont capables de jouer avec les mots. Bon. Donc c'est une situation un peu particulière. Moi j'ai envie de dire, je suis complètement d'accord avec Raymond Boudon. Je suis complètement d'accord. J'ai envie de lui proposer une sorte de d'accord pour montrer que sa position, du coup, est pas si libérale que ça. Parce que moi, je fais à peu près la même analyse que vous de l'université de Masse, et qui s'est vouée à des logiques, justement, de massification, de professionnalisation, et je dirais presque d'audimat. C'est un peu le même problème que la culture de masse. Eh bien, ça indique bien que des logiques libérales de marché doivent être régulées par des mécanismes à inventer, qui sont peut-être des mécanismes dans lesquels la position de l'individu, la position de la concurrence et de la compétition ont leur place, mais pas toute leur place. Voilà. Donc j'ai envie de dire, le constat que nous faisons d'un certain nombre de dysfonctionnements montre bien que nous devons chercher des complexités nouvelles. Hein, je ne veux pas faire reprendre des idées qu'Edgar Morin a rendues populaires, mais bon, la complexité des systèmes sont telles que cette opposition entre libéralisme et le reste... Bon, je suis pas très attiré par ça. Voilà.
Raymond Boudon. Je suis pas sûr qu'il y ait de relation avec le libéralisme. Au fond, ce que je suis en train de dire, c'est que aujourd'hui, notre ministre de l'Éducation dit qu'il faudrait apprendre à lire, à écrire, à compter à un niveau plus élevé. Je veux dire, ce qui s'est un petit peu effondré, c'est l'apprentissage d'une argumentation sérieuse, solide, valide. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Je ne suis pas sûr que ça ait un rapport avec le libéralisme.
Si, un peu, parce que regardez l'effet Internet. Moi, je vois, pour donner un exemple qui, je crois, va dans le sens de ce que vous venez de dire. Moi, j'ai des étudiants qui me font de formidables exposés, simplement parce qu'ils font du coupé-collé à partir d'Internet. Or, le développement, comme ça, un peu sauvage, sans expérimentation, sans réflexion, sans distance d'Internet, c'est des logiques quand même, on a bien vu avec les NetDays aux États-Unis qui sont venus en Europe, c'était quand même sponsorisé par des entreprises d'informatique. Enfin, il y a une vision quand même très 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 libérale et très capitaliste au fond, qui c'est un exemple parmi d'autres.
Je crois que le mal n'est pas du côté de l'apparition d'Internet, c'est plutôt du côté de la décomposition, pas de la décomposition, mais de la mauvaise maîtrise de l'université de Masse.
Mais c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, non? Parce qu'en fait, les conséquences, vous en parlez d'ailleurs dans votre ouvrage, Raymond Boudon, les étudiants des années 70-80 occupent aujourd'hui les postes de responsabilité et d'influence, notamment dans les professions intellectuelles, et ils forment et ça se démultiplie en fait, en quelque sorte. C'est un petit peu ce que vous voulez dire.
Oui, alors je crois qu'on pourrait le montrer empiriquement. Moi, j'ai par exemple constaté que dans la liste des sociologues qu'on cite, il y a Gabriel Tarde. Eh bien, il y a quelques années, on a redécouvert en France Gabriel Tarde, alors qu'il est normalement dans un enseignement de sociologie bien constitué, le nom devrait apparaître à un certain moment, et tout étudiant de sociologie devrait savoir que Gabriel Tarde a étudié. On ne sait même plus ça. Et alors, l'effet de tout ça, c'est une perte de mémoire, en quelque sorte. Et c'est un exemple que je prends, mais on pourrait en trouver des quantités de cet ordre-là. Enfin, j'étais récemment dans une université italienne, et il y a une brave étudiante française, Erasmus, qui, je veux dire, m'a fait un tout petit peu honte. Enfin, elle était incapable de citer, elle était étudiante de sociologie, bourse Erasmus, etc., incapable de citer un livre de Durkheim. Bon, ben, c'est des petites choses, mais on pourrait aligner des milliers d'exemples comme ça, d'une décomposition assez profonde, Je suis d'accord avec Marc-Guillaume pour dire que ceci varie avec les disciplines. La situation du droit ou de l'économie n'est pas celle de la sociologie. Malheureusement, du côté des disciplines fondamentales, enfin, qui essayent d'aller au plus profond. Marc-Guillaume m'excusera peut-être si je dis que l'anthropologie est située à un niveau de profondeur plus grand que l'économie. Enfin,
bien sûr, mais ça va sans dire.
Mais l'anthropologie, par bien des côtés, l'anthropologie, la sociologie, c'est devenu n'importe quoi. Je cite cette anecdote de ce colloque brillant qui s'est tenu à Paris à un certain moment l'année dernière. Et à la fin, le problème, c'était de savoir sur quel sujet porterait le prochain colloque. Et il y a une sociologue anglaise très connue, dont je ne citerai pas le nom, qui lève le doigt pour proposer, comme titre du prochain colloque, « Why has sociology become so messy ?» Ce que j'ai traduit dans ce livre par « Pourquoi est-ce que la sociologie est-elle devenue un tel foutoir ?»
Nous marquons une nouvelle pause dans cette émission. Raymond Boudon est notre invité. « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ?» C'est le titre de son livre publié chez Odile Jacob. Avec nous également en studio, l'économiste Marc Guillaume, éditeur, professeur à l'Université Paris-Dauphine. Nous nous retrouvons dans un instant.
Chaque semaine, l'Académie des sciences morales et politiques ouvre ses portes à un conférencier. Cette année, l'Académie se penche sur la construction européenne. Les frontières de l'Europe d'un point de vue historique, l'Europe vue du monde arabo-musulman, l'Europe médiévale, l'Europe et les femmes. Radio-Canal Académie vous propose de découvrir les grands sujets traités en séance. Plusieurs fois par jour, retrouvez l'intégralité des séances de l'Académie des sciences morales et politiques en écoutant Radio-Canal Académie.
Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ? C'est le thème que nous développons dans l'émission Éclairage aujourd'hui sur Canal Académie avec M. Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis Marc Guillaume, professeur à l'Université Paris-Dauphine, éditeur et auteur notamment du livre intitulé « Virus vert » publié chez Descartes et compagnie. Alors messieurs, quelle relation l'État entretient-il avec le libéralisme ? Raymond Boudon, vous dites, vous écrivez, l'évolution de l'État libéral au XIXe siècle et dans la quasi-totalité du XXe paraît contredire la théorie libérale de l'État. Alors, explication et après réaction. Raymond Boudon.
Ah, c'est-à-dire qu'il y a une longue évolution historique concernant l'État. On pourrait même remonter, si on veut, à Louis XIV. On s'aperçoit que l'État, un petit peu partout, s'arroge de plus en plus de fonctions. Par exemple, Louis XIV est le premier à inventer la retraite, la retraite des marins. Bon, ben ensuite, le système de retraite s'est trouvé un peu dans tous les pays organisés. Donc, il y a au cours du temps une évolution de l'État un tout petit peu partout qui l'a amené à assumer des fonctions de plus en plus larges. Et cette évolution a été presque linéaire, variable selon les pays, bien entendu. Mais on a eu l'impression, au bout d'un certain temps, que l'État s'était arrogé trop de fonctions. On voit apparaître, surtout à partir de la deuxième partie du XXe siècle, surtout à partir des années 70, on voit apparaître une critique de l'État-providence. Alors, la critique du trop d'État est une vieille antienne du libéralisme. On la trouve déjà chez Tocqueville, qui craignait, vous le savez, l'apparition d'un despotisme immense et tutélaire. Enfin, ben on l'a vu apparaître, ce despotisme immense et tutélaire, et maintenant on ne peut plus guère le financer, ou il pose des problèmes de financement. Donc on voit apparaître à ce moment-là, à partir du moment surtout où il y a des problèmes de financement, me semble-t-il, on voit apparaître une critique du trop d'État. Ceci dit, il faut voir qu'il y a les évolutions historiques font que la critique de l'État ou le rôle attribué à l'État et la relation entre l'État et le libéralisme est très variable selon les pays. Enfin, il y a une espèce de résistance très très forte de la France au libéralisme pour des raisons historiques qui sont extrêmement faciles à comprendre. C'est-à-dire que la centralisation française que Tocqueville a admirablement décrite, enfin, est toujours là et il est difficile de s'en débarrasser. La situation de l'Allemagne, par exemple, est tout à fait différente. Il n'y a pas de ministre de l'éducation en Allemagne, par exemple. Celle de la Suisse est différente, celle des États-Unis aussi. Alors, la France a de par son histoire, de par l'importance de l'État, a des relations particulièrement difficiles avec le libéralisme. C'est une des raisons qui explique pourquoi la France est particulièrement allergique au libéralisme. J'ai dit quelque part à un journaliste qui m'a interviewé que j'ai été vraiment très amusé lorsque l'un de mes amis sociologues, un sociologue très connu, a publié il y a quelques années un livre intitulé « Comment sortir du libéralisme ». Ma première réaction, c'est drôle de poser une question comme ça dans un pays qui n'y est jamais rentré.
Alors, l'évolution de l'État libéral qui paraît contredire la théorie libérale de l'État, Marc Guillaume.
Alors, je crois qu'il faut d'abord distinguer le colbertisme et l'étatisme. Un collègue a écrit un livre qui s'appelle « Le colbertisme high-tech ». Ce n'est pas du tout le colbertisme high-tech, ce qui caractérise la France. C'est l'étatisme high-tech.
Haute technologie.
High-tech, c'est haute technologie. Louis XIV et Colbert font une sorte de... une invention extraordinaire qui consiste à aider les industriels, les commerçants, les artisans, les manufacturiers à exporter et à faire une sorte de mise en commun des savoir-faire et de l'art de vendre. C'est formidable. Quel est le pays qui a retenu cet héritage ? Les États-Unis. Les États-Unis sont le pays le plus colbertiste du monde. Regardez Internet, on voit bien que les universités, le département de la Défense, le gouvernement ont été mobilisés autour d'un grand projet. Nous sommes, et Jacques Le Sourd explique bien, à partir de la Révolution, on est passé brutalement du colbertisme à l'étatisme. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Alors cela dit, c'était ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que c'est vrai que c'est une des plaies françaises, mais sur le XXe siècle, on ne peut pas dire qu'elle ait amené la France à un déclin. Je sais bien que c'est la mode de parler de la France qui tombe, mais ça contredit tous les chiffres macroéconomiques. La Grande-Bretagne, c'est vrai qu'elle a eu un épisode très étatiste aussi, était la première au début du siècle, elle est maintenant environ cinquième, si on tient compte de la vraie valeur de la livre. La France était quatrième, elle est restée quatrième. Bon, donc il ne faut pas commencer à dire qu'on a supporté un étatisme qui nous aurait détruit ou qui nous aurait produit notre déclin. Et on voit bien que dans un très grand nombre de secteurs industriels, on est resté un pays encore assez industrialisé et avec des pôles d'excellence. D'autre part, on a bien vu qu'on est capable de faire amende honorable. France Télécom, c'était il y a 20 ans la DGT. Maintenant, c'est une entreprise industrielle qui n'est pas déshonorante. Et je ne vais pas citer les autres exemples, Air France et peut-être demain EDF. Donc on est capable de se débarrasser de l'étatisme. Et moi, personnellement, là, vous allez me trouver un peu libéral. Moi, je ne suis pas contre parce qu'un certain nombre d'entreprises publiques n'ont pas su trouver dans leur propre culture, dans leur histoire, les moyens de se rénover.
Vous êtes un économiste
Oui, j'ai cru pendant très longtemps qu'on pourrait faire de certaines administrations publiques, des pôles d'excellence. On n'y est pas arrivé, eh bien, il faut les mettre dans le bain de la concurrence pour leur apprendre à nager. Et je dirais même que dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'éducation, l'étatisme, là je rejoins complètement Raymond Boudon, l'étatisme a fait tellement de ravages qu'il va falloir mettre un peu de libéralisme et de concurrence, mettre tout cela dans le grand vent. Donc je ne suis pas un intégriste du rôle de l'État. Mais j'ai envie de dire... un, c'est pas si catastrophique que ça. Deux, les Américains en font un bon usage. Trois, profitons de notre savoir historique pour revenir à un colbertisme intelligent. C'est une formule un peu rapide, je le sais bien. Mais voilà, il faut savoir, là encore, hybrider les choses. Par moments, il faut de la concurrence, de la compétition. Mais alors, pour donner un exemple concret, pour montrer de quoi l'État doit être le gardien, et là, je reprendrai l'exemple de l'université, quand il s'agit de rémunérer les stars du football ou les grands mannequins, c'est du court terme, on peut laisser jouer marché. Mais quand vous voulez défendre des créateurs de demain, les artistes, et qui justement, parce qu'ils sont des créateurs, dérangent les lois, les routines du marché, là il faut bien que quelqu'un intervienne pour faire une sorte d'autre régulation.
Mais alors justement, quel est le pendant du libéralisme aujourd'hui ? Parce que la réforme que vous évoquez, Marc Guillaume, certains ministres ont essayé dans l'administration, la fonction publique, et beaucoup s'y sont cassés les dents, pour ne pas dire tous d'ailleurs. Quel est le pendant du libéralisme aujourd'hui ? Est-ce toujours principalement le marxisme ou est-ce plutôt une forme un petit peu plus, plus édulcorée, Raymond Boudon ?
Je crois que on a dit tout à l'heure que le libéralisme est un mouvement extraordinairement compliqué, donc il y a toutes sortes de variantes. Mais il me semble qu'il y a deux noyaux essentiels, deux noyaux intellectuels essentiels à la base de tout ça, et qui est commun à toutes les variantes du libéralisme, c'est deux principes. Le principe de confiance, faire confiance aux gens plutôt que de se défier d'eux, et le principe de subsidiarité, c'est-à-dire émettre des règles au niveau le plus proche du terrain, sauf si l'on peut démontrer qu'il est préférable d'en prendre un niveau un peu plus élevé. Enfin, alors, ces deux principes qui sont le cœur du libéralisme, au fond, je dirais quand même que la France a beaucoup de mal à l'appliquer. Quand on voit les règles qui pèsent sur les créateurs d'entreprises, quand on voit les règles extraordinaires qui pèsent sur le personnel enseignant, tout ça fonctionne selon un principe illibéral, ce que j'appelais illibéral, dans la mesure où les institutions trahissent une méfiance des gens. Prenez un proviseur ou un directeur d'enseignement secondaire. On lui dit, il faut que votre maison marche, il faut que votre maison soit efficace. Il faut que vos enfants sortent de chez vous avec quelque chose en main. On lui demande des choses qui sont très, très naturelles et extraordinairement importantes dans une démocratie. Mais on lui dit, on se défie à un tel point de vous qu'on ne vous donne pas le contrôle d'un certain nombre de paramètres essentiels. Vous n'aurez jamais le droit de choisir vos enseignants, vous n'aurez jamais le droit de choisir les règles, vous pouvez faire des projets, mais qu'est-ce que c'est que les projets d'établissement? C'est vraiment de la pommade. Hein. L'essentiel vient de la rue Grenelle. Alors on voit cette armée, je prends cet exemple de l'éducation, cette armée absolument extraordinaire, dirigée depuis un bunker de la rue de Grenelle. Et qu'est-ce qui paye les pots cassés de tout ça? Tout le monde, sans aucune exception, le proviseur à qui on demande de faire les choses sans lui donner les moyens de le faire. Vous voyez, donc le principe, là vous avez, je prends cet exemple, car vous avez là un viol à la fois du principe de confiance, on ne lui fait pas confiance, on l'entoure de règles. Le chef d'entreprise, le fondateur d'entreprise, idem, ce qui explique tout de même le nombre d'entreprises qui se cassent la figure, le fait qu'on ne puisse pas recruter davantage, le fait qu'on ait quand même un record du taux de chômage, enfin je parle sous le contrôle d'un économiste beaucoup plus compétent que moi, mais tout ça c'est quand même l'effet de mode de pensée profondément illibéral qui s'écarte à chaque instant du principe de subsidiarité et du principe de confiance. Et alors là, on a du mal à vraiment...
Donc c'est l'opposition de la matière libérale, ce que vous appelez la matière libérale, avec la matière illibérale. Oui. Marc-Guillaume.
Oui, non, mais lorsque, sur l'exemple de l'université, de la recherche et plus généralement de l'enseignement, je suis profondément d'accord avec vous. Profondément d'accord. J'ai tendance à penser que ce mammouth est une sorte de patrimoine où on conserve, je dirais, la culture de l'Union soviétique naguère. C'est vraiment le patrimoine français. Et c'est pas seulement un mammouth par le nombre d'effectifs et la prolifération des textes, mais c'est un mammouth microcéphale.
Oui.
Et d'ailleurs, un ancien ministre de l'Éducation nationale, cherchez son nom, je ne vous le dirai pas, disait, mais comment? On nous accuse d'étatisme, mais pas du tout. Rue de Grenelle, il y a très peu de fonctionnaires. Mais c'est précisément ça le problème. C'est que quand vous avez la capacité de diriger, parce que vous n'êtes pas assez nombreux, d'adapter, de diriger, de faire confiance, de mettre sur le terrain, et même de vérifier que ce que vous avez publié dans vos textes et vos circulaires est appliqué, eh bien à ce moment-là, vous en arrivez à multiplier ces textes. Et donc à ligoter de plus en plus et à faire partir, à disparaître toute l'autonomie. Donc là c'est clair pour moi, vous disiez tout à l'instant Emmanuel, les politiques n'ont pas eu le courage parce que c'est un bout du patrimoine et on a peur de le faire sauter, de le dynamiter, de l'affronter. Le ministre qu'il fera sera obligé d'être un vrai politique parce qu'il ne faudra pas qu'il dise ce qu'il va faire.
Bien sûr.
Hein, c'est clair. Sinon, vous voyez à qui je peux penser. Et deux, il faudra qu'en plus, il fasse un trait sur sa carrière. Mais c'est effectivement un des problèmes. Bon, ayant dit cela, j'aurais quand même tendance à dire, c'est pas une raison pour être libéral. C'est-à-dire, c'est pas une raison pour faire... il faut pas confondre, peut-être appelons ça l'illibéralisme, moi j'achète votre concept, mais c'est pas une raison pour croire aux forces du marché. Il faut des forces du marché pour faire ça, mais il faut aussi peut-être du colbertisme à l'américaine, c'est-à-dire un fonds national de la recherche qui attribue, qui fasse évaluer, qui fasse pas évaluer par les syndicats ni même par les pairs français, mais par des gens à l'extérieur, par des organisations qui sont des organisations de compétition et de concurrence, mais pas forcément de libéralisme de marché.
Oui, vraiment. Encore une fois, je ne définis pas le libéralisme par le marché.
Il y a un amalgame qui est fait que vous ne faites pas.
Je crois vraiment, l'important, pardonnez-moi de répéter,
je vous en prie.
Mais l'important, c'est vraiment, est-ce qu'on se représente l'homme, l'être humain, l'individu, comme quelqu'un d'autonome, de responsable, responsable, etc. Ou bien comme quelqu'un agité par des forces irrationnelles et que par conséquent il faut contrôler. Derrière la défiance, il faut contrôler. On ne peut pas lui faire confiance parce qu'il n'est pas rationnel. Il est agi par toutes sortes de forces sociales.
Nous arrivons au terme de cette émission, messieurs. Cette hostilité des intellectuels au libéralisme va-t-elle persister ? Raymond Boudon, autrement dit, le libéralisme sera-t-il toujours le pire des systèmes à l'exception de tous les autres, pour reprendre la célèbre expression ?
La matrice est en train de se craqueler, la matrice illibérale, ce que j'appelle la matrice illibérale est en train de se craqueler. On voit bien que derrière toutes ces sciences qui se sont forgées sur une représentation illibérale, hétéronome de l'homme, sont tombés dans une crise extrêmement profonde. C'est vrai de l'anthropologie, c'est vrai de la sociologie, c'est vrai de la science politique. Donc il y a un échec de toutes ces sciences tournant autour de ces représentations illibérales de l'homme. Donc cette matrice est en train de se craqueler. Je suis frappé par le fait qu'il y a un philosophe américain, Nietzsche, qui vient d'être installé dans une grande université anglaise, qui est surtout célèbre pour ses propos anti-libéraux et dont la presse française n'a pas encore fait un héros de la pensée. C'est probablement le signe que les modes de pensée illibéraux n'ont plus la force qu'ils ont eue du temps de Foucault, du structuralisme, etc. Toutes ces pensées qui se représentaient l'homme comme profondément. Donc je crois que les choses sont en train de changer profondément.
Nous sommes arrivés à la croisée des chemins.
Alors, oui, sauf que le rythme de changement des idées est un rythme très lent. Il y a des idées religieuses qui évoluent avec une particulière lenteur, les idées philosophiques qui évoluent peut-être un peu plus vite, mais également très, très lentement, et qui continuent de structurer les esprits, de structurer l'enseignement, de structurer les générations futures. Vous avez par exemple, si on prend le cas des penseurs des années 60, leur pensée est morte. Ils n'ont pas de successeur, mais ils ont toujours un tas de dévots, de fidèles qui transmettent. Donc, ces simples mécanismes de génération font qu'il faut plusieurs générations pour que les choses changent en profondeur au niveau des idées.
Marc-Guillaume, pour terminer, vous voyez évoluer les choses de...
Oui, je vois bien le point, mais je vois un autre point symétrique, c'est que les idées fondées sur le libéralisme comme individualisme méthodologique, enfin l'espèce de goût pour l'autonomie, peut aussi, ce sont des idées qui se s'érodent, qui s'usent, qui se heurtent à des critiques fortes, à savoir que l'individualisme d'abord bascule dans ses excès, dans un hyper-individualisme, dans une forme de futilité. On peut faire ce que l'on veut, mais c'est une sorte de liberté Club Med où finalement on est tellement normé, tellement semblable, tellement dans un effet de nouveau, je vais revenir au fait qu'on n'est pas seulement des individus, il y a des champs de force, le langage, etc., les représentations, qui font qu'on a des illusions d'individualisme. Bon. Et donc, moi, il me semble que, de la même manière que l'illibéralisme a du plomb dans l'aile, le libéralisme, comme individualisme ou hyper-individualisme, a également du plomb dans l'aile. Et mon sentiment, c'est qu'il faut, je reviens à ce que je disais au départ, s'il y a une croisée des chemins, c'est plutôt un mélange des voies, c'est plutôt un carrefour, c'est savoir par moment se consoler en se disant je suis au centre du monde, je suis le sujet, je suis un sujet raisonnable, et puis par moment accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'on est dans un ensemble social et que cet ensemble social a ses évolutions et ses forces propres. Il faut accepter cette dualité. Moi j'ai cette philosophie, si je puis dire, ce qui fait que je ne suis pas un homme d'opposition, mais ça me plaît de voir s'articuler des approches très, très différentes et apparemment antagonistes.
Merci infiniment, messieurs, pour ces points de vue, et je renvoie bien sûr nos auditrices et auditeurs pour poursuivre la réflexion. Je renvoie à la lecture de ce livre, donc publié chez Odile Jacob, « Pourquoi les intellectuels n'aiment pas le libéralisme ?» L'auteur Raymond Boudon, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui était notre invité aujourd'hui, avec Marc Guillaume, économiste, professeur à Paris Dauphine, éditeur et auteur notamment du Virus Vert chez Descartes et compagnie. Merci messieurs, à très bientôt.
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.